Maud Kessar, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé cet ouvrage, Alliances and Power Politics in Trump Era, c'est-à-dire, on va le traduire par Alliances et politique de pouvoir sur l'ère Trump. Alors, c'est donc un ouvrage collectif en anglais qui analyse l'évolution de la politique étrangère américaine sous l'impulsion de Donald Trump. Au cours des 4 dernières années, Donald Trump a mené une politique étrangère à coups de sanctions, de tarifs douaniers, visant ennemis comme admis, coups de gueule à l'égard parfois d'alliés traditionnels, rapprochement avec d'anciens ennemis, le tout avec une préoccupation obsessionnelle, America First. Alors, à l'issue de son mandat, quel bilan dressez-vous de la place des États-Unis dans le monde?
Vous avez tout à fait raison de rappeler que America First est donc devenue presque une doctrine de l'administration Trump. Et si l'on retient ce que ça veut dire que finalement toute la politique étrangère de Trump a d'abord pour visée de satisfaire l'électorat de Trump. Donc c'est avec ce prisme-là qu'il faut sans doute retenir l'ensemble des décisions que Donald Trump a pu prendre en politique étrangère. Autrement dit, la politique intérieure a conditionné les choix de politique étrangère de Donald Trump, et je pense que c'est important à rappeler. Alors, dresser un bilan avant le mois de novembre 2020 n'est pas forcément prématuré. Il y a quand même beaucoup de grandes lignes qui se dessinent, et la première grande ligne, c'est celle sans doute justement qui est le contre-pied de l'America First, c'est-à-dire que au lieu de faire des États-Unis un hégémon incontesté, ce qui a été quand même le positionnement américain de toute la deuxième partie du long XXe siècle, eh bien aujourd'hui les États-Unis sont particulièrement contestés dans leur hégémonie, aussi bien si l'on regarde ce qui se passe dans l'axe transatlantique que ce qui se passe aussi du côté, je dirais, transpacifique, puisque les États-Unis sont cet empire du milieu entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, et ils ont des alliances et des jeux de pouvoir qui s'exercent aussi bien dans un espace atlantique que dans un espace pacifique. Et aujourd'hui, si l'hégémonie américaine est particulièrement remise en cause, c'est sans doute aussi dans cette zone Asie-Pacifique, et c'est ce que l'ouvrage essaie de montrer, c'est-à-dire quels sont les compétitions de puissance à l'œuvre, Russie, Chine, États-Unis, dans l'espace atlantique aussi bien que dans l'espace pacifique. Et alors comment les États-Unis en ressortent? Ils en ressortent sans doute affaiblis aujourd'hui avec la présidence de Donald Trump, mais peut-être qu'il faudrait remettre un petit peu en perspective, et c'est ce que l'ouvrage essaie de faire, cette idée de fin du rêve américain, fin de l'hégémonie et déclin américain finalement, qui est une sorte de marronnier ou de leitmotiv quand on étudie en fait la politique étrangère américaine ou la place des États-Unis dans le monde. Ce leitmotiv donc aurait tendance à montrer que c'est pas Donald Trump qui amène le déclin des États-Unis, que peut-être cela s'inscrit dans des structures un peu plus profondes, pas que de la politique étrangère américaine, mais aussi de la gestion des institutions américaines. J'entends par là aussi le fait que avant même l'accession de Donald Trump au pouvoir, on est dans une Amérique bloquée, qui est polarisée, extrêmement divisé, et on le voit encore aujourd'hui. Et finalement, le positionnement iconoclaste de Donald Trump n'a fait qu'exacerber ces clivages très importants aux États-Unis qui sont cristallisés avec la crise du Covid, comme on le voit ces dernières semaines, et avec une crise du Covid qui révèle que la première faiblesse à l'étranger des États-Unis, c'est sans doute aussi le fait que le modèle de démocratie sociale n'a jamais véritablement fonctionné, et que donc, si le peuple américain souffre, les choix aussi de politique extérieure et sa puissance peut en être affaiblie. Donc c'est sans doute une des leçons qu'il faut tirer, et on verra que peut-être avec l'élection de novembre, on aura peut-être aussi des surprises dans les choix que les Américains feront d'une puissance ou non préservée ou pressentie sur le plan intérieur.
Vous parliez des relations pacifiques et des relations atlantiques. L'une des premières déclarations de Donald Trump a été de qualifier l'OTAN d'obsolète. On l'a vu parfois réserver le même traitement aux pays alliés de l'Europe que à des pays ennemis. Qu'en est-il aujourd'hui de la relation transatlantique?
Alors, cette question de la relation à l'OTAN de Trump, elle est très personnelle déjà parce que c'est une appréciation qui tient au président et pas forcément à son administration. Et je pense que c'est important de le souligner. Je rappelle que cette déclaration tonitruante de Trump, l'OTAN est obsolète. Il a dit par la suite aussi que l'OTAN n'était pas obsolète finalement, quand il s'est rendu compte que l'OTAN avait aussi dans ses missions de lutter contre le terrorisme. Et c'est pour ça que Trump finalement a reconnu que l'OTAN pouvait être utile. Car vous vous rappelez la première fois que Donald Trump évoque un OTAN obsolète, il le fait en inadéquation ou en opposition à son ministre de la Défense, qui est alors James Mattis et qui, lui, est un fervent partisan de l'Alliance Atlantique. Alors, cette Alliance Atlantique, elle a été particulièrement malmenée, effectivement, par la Maison-Blanche, pas forcément par l'ensemble des représentants de l'administration Trump. Elle a été malmenée parce qu'effectivement, les alliés ont connu le même sort que des ennemis, comme vous le rappelez. L'histoire de la sanction des tarifs douaniers qui est aussi imposée aux automobiles aussi allemandes avait particulièrement refroidi la relation transatlantique. Mais bien évidemment, ce n'est pas que cela. C'est l'ensemble de ces sommets auxquels Trump participe depuis son élection, que ce soit le sommet de l'OTAN ou même la conférence de Munich, où on a l'impression qu'on a une Amérique qui est de plus en plus exigeante vis-à-vis de ses alliés européens et en même temps de plus en plus distante. Alors je pense que cette impression-là, il faut peut-être la nuancer, et c'est ce que l'ouvrage aussi tente à montrer, c'est que finalement, d'un État à un autre État, et non pas des relations des États-Unis avec les pays membres de l'OTAN ou les pays de l'Union européenne, ce qui est encore une autre paire de manches pour le président Trump. Donc, résultat, on a peut-être des alliances qui ont été un petit peu plus resserrées sur le flanc est et nord de l'Europe, avec un soutien militaire qui a été en fait renforcé sous Trump, notamment auprès des alliés polonais, via ce fonds de soutien qui s'appelait sous Obama European Reassurance Initiative, l'ERI, qui est devenu sous Trump le European Deterrence Initiative. Ce qui veut dire en fait que ce qui compte pour l'administration Trump, c'est d'assurer la dissuasion vis-à-vis de la Russie, notamment en soutenant les pays du flanc est de l'Europe qui pourraient se sentir menacés. Donc, avec les pays du flanc est, l'alliance, elle s'est plutôt resserrée. En revanche, auprès des alliés de l'axe traditionnel Paris, Londres, Berlin, les liens ont été particulièrement distendus, et pas qu'à cause des questions douanières, mais aussi à cause de ce qui se passe sur des théâtres extra-européens. Et donc, c'est la question iranienne ou la question syrienne aussi qui ont pu venir en ligne de compte. Et ce qui leur a nécessité de leur part de devoir s'organiser différemment, c'est ce qu'Angela Merkel a vu dès 2017 en disant que les Européens devraient prendre en main leur destin, et que sans doute c'était venu le temps d'une forme de distanciation. Seulement, entre les déclarations qui ont été faites et la capacité que les Européens ont à s'organiser sans les États-Unis, il y a quand même une autre, je dirais, paire de manches. Effectivement, certains pays européens comme la France ont porté la volonté d'une forme d'autonomie stratégique, ce qui a fait pas mal grincer des dents à Washington, car à la fois les Américains veulent que les Européens gèrent leurs problèmes de manière plus autonome, seuls, mais en même temps, brandir la volonté d'une autonomie stratégique voudrait dire que finalement, les Européens sont un petit peu ingrats. Donc cette relation un petit peu ambiguë qui est maintenue avec un président qui a fait des déclarations tonitruantes, mais derrière lui, certains membres de son administration qui ont voulu absolument soutenir l'Alliance en pensant qu'elle est utile quand on parle de l'OTAN, et ce qui est aussi quand même le cas d'une majorité de représentants du monde politique américain au Congrès qui jugent que l'OTAN est utile. Par contre, il y a consensus sur le fait que les Européens peut-être ne contribuent pas assez financièrement.
On l'avait déjà entendu sous l'administration Obama.
La question du partage du fardeau et de la participation des alliés au budget de l'OTAN, c'est une question récurrente depuis très longtemps. Et sous Obama, c'était effectivement Bob Gates, le ministre de la Défense, qui avait rappelé que le partage du fardeau devait effectivement être mieux réparti avec un investissement plus important des Européens. Aujourd'hui, pour les Européens, la question est de savoir s'organiser entre les jeux de puissance qui existent entre les États-Unis et la Chine, mais aussi les États-Unis et la Russie, et donc à essayer de tirer leur épingle du jeu pour essayer de représenter une forme de quatrième puissance qui serait capable finalement de pouvoir pratiquer ce que certaines puissances moyennes pratiquent, c'est le hedging, c'est-à-dire le fait de se couvrir militairement ou économiquement, et tantôt privilégier les alliances avec une puissance plutôt qu'une autre.
Alors, deux pays où les décisions de Donald Trump ont eu de véritables répercussions, c'est l'Iran, puisque les États-Unis sous Donald Trump se sont retirés de l'accord nucléaire iranien, et puis la Syrie, avec l'annonce soudaine du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Comment considérer ce retrait? Est-ce que c'est un coup de griffe sérieux dans la crédibilité des États-Unis et de la confiance que leur accordent les alliés à terme?
Pour ce qui est de la question du retrait des troupes, je crois que ça semble sans doute déstabiliser les alliés de la région, puisqu'on se souvient que les troupes américaines présentes étaient là aussi pour tenir à distance les troupes de Bachar el-Assad des Kurdes, et donc qui se sont sentis totalement abandonnés au moment du retrait donc des troupes annoncées en décembre 2018 par Donald Trump. Et puis pour les forces alliées occidentales, c'est aussi une mise en péril, et notamment pour les troupes françaises, puisque il a fallu s'organiser dans une forme de précipitation pour être toujours présent sur place, mais avec un parapluie militaire américain beaucoup plus réduit. Donc c'est évidemment pas un facteur de stabilité pour la région, et ça contribue malheureusement à dégrader l'image de la présence américaine dans cette zone. Plus difficile encore pour l'image des États-Unis hégémones, qui ont laissé la place complètement dans ce conflit sous l'administration de Trump à la Russie de Vladimir Poutine,
de retour au Proche-Orient, voilà.
Voilà, et puis à la Turquie. C'est pas forcément ce qui se profile pour la suite, puisque je ne veux pas faire trop de prospectives, mais aujourd'hui on parle quand même à Washington de retravailler sur une diplomatie plus agressive. À tel point que certains cercles à Washington, qui sont suivis par un politologue américain qui est Mandelbaum, donc celui-même qui parle des compétitions de puissance ou des jeux de puissance, il est question de repenser en fait une forme de containment, c'est-à-dire d'endiguement des grandes puissances dans cette zone délicate qui pourrait permettre de contenir la Russie, mais aussi la Chine qui pousse aussi dans cette zone et qui vient en soutien donc de cet axe Ankara-Moscou-Téhéran que j'évoquais.
Vous parliez de la Chine tout à l'heure et de la zone pacifique avant. Donald Trump a donc mené une stratégie très agressive vis-à-vis de la Chine pendant son mandat. Finalement, le résultat au terme de son mandat du rapport de force entre les États-Unis et la Chine, quel est-il?
Alors, là, on est encore en plein dedans. Et puis avec la crise du Covid, qui est repris comme un argument fort par Donald Trump, tout cela est loin d'être terminé. Il est, encore une fois, comme je le disais en préambule, je pense qu'avec l'administration Trump, on exacerbe une compétition de puissance entre la Chine et les États-Unis qui ne naît pas sous l'administration Trump. Donc, et une compétition de puissance qui finalement est presque nécessaire. C'est-à-dire qu'il est important peut-être que ces deux puissances coexistent, car si l'une anéantissait l'autre, que ce soit sur le plan commercial ou sur un plan d'une guerre totale qui semble quand même difficile à envisager, l'une ou l'autre des puissances se priverait d'un partenaire essentiel. Alors je m'en explique peut-être, parce que la relation en fait entre la Chine et les États-Unis, c'est une relation d'interdépendance économique indéniable, et donc si on se prive du partenaire économique chinois, on se prive d'un marché. Après, la question, c'est de se dire qu'est-ce que l'on fait, pas simplement du marché économique chinois, mais de toute cette zone Asie-Pacifique et maintenant Indo-Pacifique, qui représente sans doute une zone d'influence forte sur le plan économique, militaire, politique. Et c'est là que les Américains veulent être particulièrement présents.
Ils se sont retirés du traité commercial.
Alors, Trump a effectivement fait exploser un des piliers de ce qu'on appelait le pivot vers l'Asie d'Obama, c'est-à-dire le traité de libre-échange transpacifique. En revanche, depuis 2018, l'administration Trump a voulu mettre en avant cette idée d'une possibilité de pas simplement jouer sur le parapluie militaire américain dans la zone, pour les alliés de la zone, mais aussi sur une forme de soutien économique des Américains aux petites et moyennes puissances de la zone. Alors aujourd'hui, l'administration Trump n'est pas complètement en mesure de proposer aux petites puissances de la zone un better deal que le grand rêve chinois de Xi des nouvelles routes de la soie. Mais tout de même, il y a des fonds, 60 milliards de dollars qui ont été donc débloqués par le Congrès pour essayer d'inciter les investisseurs américains à venir en appui des petites et moyennes entreprises de la zone Indo-Pacifique. Donc cette compétition de puissance, elle n'est pas que sur le plan militaire, elle est aussi sur le plan économique, et elle n'est pas que sur une rivalité de tarifs douaniers ou de guerre commerciale, elle est aussi sur l'extension de la zone d'influence économique des États-Unis en Asie-Pacifique et disait en Indo-Pacifique, donc jusqu'en Océanie.
Et vous parliez de technologie tout à l'heure, c'est aussi les tensions autour de la présence de Huawei sur un certain nombre de marchés.
Tout à fait. Il y a sans doute un sujet qui est particulièrement brûlant sur cette zone donc Asie-Pacifique, c'est la question des semi-conducteurs. Quand on parle de nouvelles technologies aujourd'hui, il est important que les Japonais, les Sud-Coréens, les Américains, que ce soit par le biais des acteurs privés ou des grandes entreprises multinationales ou des acteurs publics ou gouvernementaux, renforcent leurs alliances pour lutter contre le géant chinois, parce que c'est aussi ces guerres-là qu'il faut pouvoir remporter aujourd'hui si l'on veut lutter à armes égales contre la Chine. Et donc, il ne faut pas se priver d'alliés précieux. Et ces alliés précieux de la zone, c'est les Japonais et les Sud-Coréens. Alors, je pense qu'en Californie, on a particulièrement bien compris ces problématiques-là, et ça doit rentrer aussi en ligne de compte sur la côte Est, plus proche de Washington et de la Maison-Blanche. Donc, effectivement, on a des rivalités, des jeux de puissance, des compétitions à plusieurs niveaux. C'est pas forcément que des enjeux sécuritaires à proprement parler, ce sont des enjeux économiques, technologiques, parce que ces enjeux technologiques, ils peuvent avoir des répercussions sur les questions sécuritaires ou militaires qui sont énormes. Et le meilleur exemple en est sans doute le développement de l'intelligence artificielle. Donc si pendant la guerre froide, la compétition de puissance, c'était la course aux armements et la course à l'espace, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt la course à l'intelligence artificielle qui prévaut.
Merci Maud Kessar.
Merci Sylvie Noël.